Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le président kenyan Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga se sont excusés aujourd'hui pour les mots assassins échangés lors des élections controversées de 2017. Un geste symbolique pour appuyer leur promesse d'œuvrer pour la réconciliation dans le pays. Après une poignée de mains surprises en mars symbolisant la fin de leur affrontement, les deux hommes sont cette fois tombés plusieurs fois dans les bras l'un de l'autre dans une ambiance très décontractée à l'occasion de la prière nationale organisée à Nairobi, un événement annuel lors duquel les leaders politiques prient pour la nation. L'Organisation mondiale de la santé dit travailler avec les autorités congolaises afin d'introduire rapidement les 5 traitements pour soigner les malades d'Ebola en RDC. L'épidémie s'est déclarée le 8 mai dernier à Bikoro, à la frontière avec le Congo-Brazzaville, et s'est propagée à Mbandaka, où une campagne de vaccination a commencé la semaine dernière. Le dernier bilan fait état de 54 cas, dont 25 décès. Docteur Pierre Frumenti, responsable Ebola de l'OMS à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, fait des précisions sur les 5 traitements.
On n'a pas encore commencé. C'est prévu cette semaine. On attend les dernières autorisations. Les antiviraux sont en cours d'acheminement au niveau de Kinshasa, puis ils viendront à Mbandaka et seront offerts à titre compassionnel aux patients atteints de la maladie à virus Ebola.
Le docteur Pierre Frumenti, responsable Ebola de l'OMS à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Toujours en RDC, l'insécurité croissante inquiète beaucoup les habitants de Lubumbashi suite aux attaques et agressions à domicile, une situation qui semble échapper aux autorités. Écoutez le cri de cœur du président de la société civile du Haut-Katanga, Maître Ghislain Kalwa.
Nous avons constaté qu'il y a une recrudescence de l'insécurité caractérisée par des visites de bandits à main armée, accompagnées avec des tueries, viols, ainsi de suite. Et c'est une question que nous avons eu à échanger avec les autorités locales. Les gens vivent dans une peur dont vous n'avez pas idée. Et aussi, nous avons saisi les instances du gouvernement national, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Nous avons fait un plaidoyer par rapport à la situation de policiers et des hommes en uniforme que leur situation d'une manière générale n'est pas bonne.
Maître Ghislain Kalwa, président de la société civile du Haut-Katanga en RDC. Human Rights Watch demande la libération immédiate d'une proviseure de lycée enlevée le 25 mai dans une région anglophone du Cameroun. Pour l'association de défense des droits de l'homme, les conflits ne doivent pas être un frein à l'éducation. Le point avec Marie Benson.
Human Rights Watch réclame la libération immédiate de Georgiana Enanga Sanga, la proviseure d'un lycée près de Bouéa, en région anglophone, a été enlevée la semaine dernière par des séparatistes. L'organisation déclare que les attaques dans des écoles ne doivent pas être utilisées dans un conflit ou une lutte politique. Depuis 2017, les séparatistes ont incendié de nombreux établissements scolaires et ont kidnappé plusieurs fonctionnaires. Ils réclament un État anglophone indépendant. Malgré les combats quasi quotidiens dans le nord-ouest et le sud-ouest, les examens de fin d'année ont commencé cette semaine au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le nord-est du Nigeria est le théâtre de nombreuses attaques du groupe Boko Haram. Après l'enlèvement de 200 écoliers à Chibok, le gouvernement nigérian et des organisations d'aide humanitaire internationale ont lancé l'initiative École Sûre, la Safe School Initiative. À Maïdougouri, les écoles organisent des exercices de sécurité d'urgence pour les élèves. Malgré cela, malgré ces mesures, de nombreux enfants risquent toujours leur vie pour obtenir l'éducation dont ils ont besoin. Reportage Chicago Doua. Récit Arzuma Compaoré.
Pour ces élèves du secondaire, c'est une journée normale en classe de chimie. Mais quand le sifflet retentit, tout change. C'est un exercice de sécurité. Les élèves pratiquent quoi faire en cas de danger. Les exercices ont commencé cette année seulement. Mohamed Tidjani, âgé de 17 ans, leur sert de guide en simulant le son d'une explosion d'une bombe.
Quand les assaillants arrivent, nous sommes censés pratiquer ces actions pour nous protéger.
Tidjani fait référence à Boko Haram, le groupe terroriste qui a émergé à Maïdougouri et déclaré la guerre au gouvernement nigérian il y a 9 ans. Ils n'ont pas encore attaqué cette école et l'administration espère que cela ne va pas changer. Le gouvernement nigérian et les agences donatrices ont mis en place l'initiative pour la sécurité dans les écoles en 2014 après l'infâme enlèvement des écolières de Chibok. Le programme aide à payer pour la formation en sécurité scolaire des éducatrices comme la directrice Kolozada. Mais elle doit encore collecter des fonds pour payer les vigiles.
Je suis celle qui finance avec le peu que nous pouvons collecter.
Cette école, la plus ancienne de Maïdougouri, a été attaquée au moins 3 fois. À l'entrée, pas de garde postée. Ce journaliste entre sur le campus sans aucun contrôle. Boko Haram a tué le directeur et un autre éducateur dans cette salle il y a quelques années. Aujourd'hui, la seule protection contre une autre attaque, ce sont ces 2 bénévoles âgés qui gardent la porte arrière. Et dans cette école primaire à proximité, malgré les nouvelles mesures de sécurité, au moins 5 enseignants ont déjà quitté par peur.
Boko Haram est toujours une menace pour les écoles à Maïdougouri. Une menace pour les enseignants et même pour la communauté. En dehors des enseignants, les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école à cause de la situation actuelle. On ne peut pas deviner si telle ou telle personne est de Boko Haram.
L'UNICEF a affecté 9 millions de dollars à l'initiative pour la sécurité dans les écoles afin d'améliorer la sécurité dans les salles de classe. Les enseignants de l'école primaire de Galtimari disent que les murs de leur école doivent être renforcés. Alors que la police nigériane a été envoyée dans certains endroits proches des écoles, les éducateurs et les étudiants s'inquiètent de leur sécurité. Quant aux élèves, ils espèrent aller à l'école sans crainte. En attendant, ils comptent sur ces exercices pour les garder en sécurité.
La Ligue marocaine de défense des droits de l'homme a dressé hier un tableau sombre de la situation des droits de l'homme pour l'année 2017 au Maroc. Le point avec Bagassi Koura.
Dans son rapport annuel présenté à Rabat, l'ONG affirme que 17 000 manifestations ont été observées l'an passé dans le pays, dénonçant l'approche sécuritaire adoptée à plusieurs reprises par les autorités. Le Maroc a été agité par les mouvements de protestation dans la région du Rif d'octobre 2016 à mi-2017, à Djerada dès fin 2017 et à Zagora l'été dernier. La Ligue marocaine de défense des droits de l'homme accuse les autorités d'avoir réprimer les protestataires et appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. L'ONG fondée en 1972 demande aussi la libération des 450 personnes arrêtées dans la région du Rif et à l'ouverture d'un dialogue sérieux avec le mouvement Hirak. Le ministre chargé des droits de l'homme, Mustapha Ramid, avait reconnu une nette amélioration en reconnaissant toutefois quelques dépassements. Le gouvernement a présenté fin 2017 un plan d'action de quelques 400 mesures et une série d'objectifs à atteindre d'ici à 2021 pour améliorer la situation.
Les États-Unis et la Corée du Nord règlent les derniers détails du sommet Trump-Kim Jong-un après un bon dîner hier soir. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo retrouve aujourd'hui le bras droit de Kim Jong-un pour de nouveaux entretiens à New York en vue de remettre définitivement sur les rails le sommet historique entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump. L'objectif de leur discussion est de déterminer si les États-Unis et la Corée du Nord sont en mesure de fixer un ordre du jour partagé pour le sommet du 12 juin à Singapour. Le général Kim Jong-chol est le plus haut responsable nord-coréen à fouler le sol américain depuis 18 ans. Il a dîné pendant 1 heure et demie avec le secrétaire d'État américain qu'il avait déjà rencontré à 2 reprises ce printemps à Pyongyang. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a été reçu aujourd'hui pour la première fois par le leader nord-coréen Kim Jong-un lors d'une visite à Pyongyang. Il s'agit de la première visite en Corée du Nord de M. Lavrov depuis 2009, selon l'agence russe TASS. Et puis, pour terminer, le président syrien Bachar al-Assad a menacé de recourir à la force contre les combattants arabo-kurdes soutenus par Washington pour reprendre les régions qu'il contrôle dans le nord du pays. Dans une interview à la chaîne de télévision Russia Today, diffusée aujourd'hui même, M. Assad a affirmé qu'il privilégiait les négociations avec les forces démocratiques syriennes, les FDS, mais si cela ne marche pas, nous allons libérer le territoire par la force. M. Assad a par ailleurs affirmé qu'une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis avait été évitée de justesse en Syrie, où les deux grandes puissances interviennent dans le conflit. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.